Vous êtes sur RTL.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Ça va les amis? Bonjour.
Bonjour.
Salut tout le monde. Bon début de week-end, bienvenue dans RTL vous régale. Oui, bonjour Jean-Seb.
Bonjour.
Bonjour.
Quatre fois.
Tu sais que si tu dis bien bonjour, t'as déjà fait la moitié du chemin. On l'a beaucoup entendu. Vous savez qu'avec les copains, chaque semaine, on vous emmène dans une destination différente. Et ce samedi, on vous emmène dans ce qui a longtemps été le grenier à blé de Paris. Bienvenue à Meaux. Meaux dont vous apprendrez qu'elle a un lien avec le Manneken Pis bruxellois. On vous expliquera tout dans quelques instants. Meaux qui, comme tout ce qui brille, peut aveugler, est aussi la ville d'un certain Louis Braille, inventeur de l'alphabet en relief. Alors entre moutarde, confit de pétales de rose et fromage, laissez-moi vous présenter ceux qui font escale à mes côtés en Seine-et-Marne en ce début de week-end. C'est vrai que si Ilbry fut couronné roi des fromages, elle est sans aucun doute la reine de notre plateau à nous. Voici Louise Petit-Renaud.
Bonjour, bonjour à tous. J'adore qu'on me compare au Brie.
Il pourrait, quant à lui, s'apparenter à la famille des pâtes molles s'il n'était pas affiné depuis bien plus longtemps que 12 semaines. Mesdames et messieurs, Jean-Sébastien Petit-Demange.
Bonjour.
Bonjour. Et plutôt que de les accuser de tous les maux, reconnaissons qu'ils font notre bonheur chaque semaine. Ça va se passer encore dans le défi frigo d'RTL vous régale tout à l'heure à 11h pour un nouveau duel sur base de l'ingrédient que vous allez nous proposer au 3210 par téléphone ou au 64 900 par SMS en envoyant le mot régal suivi de votre message. Je rappelle que vous disposez de toute la durée de l'émission, c'est-à-dire jusqu'à 11h30 pour nous appeler puisque les appels sont également enregistrés pour la semaine prochaine. À gagner ce matin, alors écoutez bien parce que là c'est du très beau cadeau, une croisière de 4 ou 5 jours à deux sur les fleuves de France. Vous allez pouvoir choisir la destination à bord d'un bateau Croisi Europe qui sont notre partenaire en ce début de week-end. Je vous souhaite bonne chance. Et puis dans la playlist de ce samedi matin, Imani. Ajoutez-y Julien Doré.
Serre-moi de l'amour dans un verre de pastaga.
On pourrait vous servir de l'amour dans un verre de pastaga, mais vous allez voir qu'on est bien, bien au-delà de tout ça. On a un programme absolument alléchant à vous proposer. Voici celui qui, pour démarrer, sera en tournée en France avec RTL les 21 et 22 septembre à Agde, les 24 et 25 à Rodez, puis le 1er octobre à Rouen et le 2 à Angers. Voici Francis Cabrel, Sarbacane sur RTL.
On croyait savoir tout sur l'amour depuis toujours. Nos corps par cœur et nos cœurs au chaud dans le velours. Et puis te voilà, poule femme comme un soufflé d'une sarbacane. La même notre éclat depuis toi. Les hommes poursuivent ce temps qui court depuis toujours. Voilà que t'arrives et que tout s'éclaire sur mon parcours. Pendu à mon cou comme une liane, comme le roseau de la sarbacane. Le ciel s'est ouvert par endroits.
Le ciel s'est ouvert par endroits depuis toi. Par contre, je ne sais pas ce qu'on a ouvert depuis quelques minutes, mais il y a une espèce de parfum dans ce studio. Faut quand même que je vous en parle. Alors, certes, ça sent la... non, mais certes, ça sent la truffe. Mais pas que, si vous voyez ce que je veux dire.
Ah ben, j'ai pas encore tout ouvert. Hein.
Il va y avoir dégustation tout à l'heure. Je rappelle que nous sommes en pays de connaissances, parce que franchement, oui, nous sommes dans le pays Meldois. Et on est en Île-de-France, à l'est de Paris, dans le département de la Seine-et-Marne. On vous parle de mots et on y revient dans un instant. Très bon début de week-end sur RTL.
Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. 10h15, 11h30.
RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Allez, suivez-nous. Vous êtes un peu partout en France à écouter RTL, vous régale. Et on vous remercie pour votre fidélité. C'est vrai qu'à ce propos, les chiffres d'audience de cet été sont tombés, plus 26% pour RTL, vous régale. Oui. Franchement, et on vous le doit,
merci
à vous qui nous écoutez. Mille merci. C'est un beau cadeau aussi pour accueillir Louise Petit-Renaud dans cette émission. Sur les journées du patrimoine, on est à Meaux. Le guide s'appelle Jean-Sébastien Petit-Demange. Regardez, c'est celui avec le parapluie, là. Il suffit de le suivre.
Meilleur guide de France.
Alors Meaux, c'est une cité qui a jamais, on va être honnête, hein, qui a jamais connu un destin exceptionnel. Mais néanmoins, c'est une ville qui est riche d'une histoire quand même hors du commun, Jean-Seb.
Alors il faut savoir qu'à l'origine, ça a été la cité des Meldes, d'où son nom, peuple gaulois qui vivait dans les environs. La ville, elle a toujours été aux avant-postes de la Brie et sa situation dans un méandre de la Marne lui a très tôt conféré le rôle de grenier à blé de Paris. Une ville qui compte parmi ses richesses architecturales à découvrir, donc une cathédrale du 12e qui est largement inspiré de Notre-Dame de Paris en plus modeste, mais elle est quand même d'une élégance étonnante, d'une clarté assez extraordinaire, et elle abrite la tombe de l'évêque le plus illustre qui est officier ici, le fameux aigle de Meaux. La tombe de Jacques Bénigne Bossuet est entourée de deux monuments grandiloquents à sa mémoire, la statue de Bossuet lui-même avec à ses pieds son animal emblème et quelques personnages ayant marqué sa vie, notamment le dauphin de France, fils de Louis XIV, dont il fut le précepteur. Un dauphin qui ne régna pas puisqu'il est mort un an avant son père, Louis XIV. En attendant, le palais épiscopal abrite aujourd'hui un musée en partie consacré à Bossuet.
Alors quand on est à Meaux aussi, il faut aller dans le quartier du marché qui est dans la bouche de la Marne. Et là-bas, on trouve une halle de la fin du 19e de type Baltard. C'est vraiment sublime. Il y a aussi à côté le marché du samedi dans les petites rues juste à côté. Et c'est vraiment le rendez-vous incontournable pour les habitants de Meaux. Alors on peut y trouver des bons produits, des beaux produits, mais surtout du Brie de Meaux. Et ça, je vous en parle tout à l'heure.
Et à propos de Brie de Meaux, Jean-Michel, est-ce que vous connaissez le lien entre le Brie de Meaux et le Manneken Pis de Bruxelles ?
Le Manneken Pis de Bruxelles, oui, à mon avis, c'est une histoire de confrérie. Je sais que le Manneken Pis a une galerie, enfin une garde-robe absolument incroyable de petits costumes qui ont été offerts par des confréries, ce serait ça ?
Bah oui, il a été intronisé dans la confrérie du Brie de Meaux. Et donc, il a ce fameux costume.
Ce qui n'est pas la plus grosse, enfin, si j'ose dire, particularité de Manneken Pis.
J'adore quand vous dites Manneken Pis.
Je le tiens bien. Hein.
Oh là là, vous l'avez.
Je tenais pas mal. Et donc, à côté de Meaux, il y a le musée de la Grande Guerre qui fêtera ses 10 ans le 11 novembre prochain. C'est clairement le plus intéressant des musées consacrés à la Première Guerre mondiale. Le bâtiment est amarré au pied du grand monument américain commémorant les batailles de la Marne. Et alors, il faut savoir que lors des commémorations du centenaire en 2018, Donald Trump, il n'est pas passé par Meaux parce qu'il aurait pu. Mais la sécurité américaine imposait un couvre-feu dans tout le quartier, imposait que l'hôpital de Meaux soit évacué. Il fallait aussi abattre les arbres à l'entrée du musée pour éviter que des snipers se montent dedans.
Bien sûr.
Autant dire que Meaux n'a pas vraiment donné suite. Et un peu plus au sud, vous avez le village de Couvray. Village qui passerait inaperçu si un bienfaiteur de l'humanité n'y était né en 1809. Il s'agit de Louis Braille. C'est une histoire singulière que la sienne. Imaginez, à 3 ans, il joue dans l'atelier de son père qui est bourrelier et il se blesse à l'œil. L'infection le rend aveugle. Avant son 20e anniversaire, il avait mis au point l'alphabet en relief, adopté depuis par le monde entier. On ne sait pas du tout que Louis Braille repose depuis 1952 au Panthéon. Encore une chose, savez-vous que la Seine-et-Marne, c'est un peu le pays de Willy Wonka?
De la chocolaterie.
Absolument.
Tiens donc, c'est quoi le rapport ?
Eh ben, il y a une vraie chocolaterie. C'est le pays du chocolat en Europe. À Noisiel, on peut visiter la cité ouvrière des chocolats meuniers. C'est ici que fut inventée la tablette de chocolat. En 1836. C'est à cette date qu'on a commencé à croquer du chocolat. Et c'est toute une cité qui voit le jour, avec des maisons, une école, des magasins, un centre médical en point d'orgue, l'usine toute de briques émaillées. C'est totalement fascinant. Et si on ne fait plus de chocolat depuis 1992, tout le site est ouvert ce week-end pour les journées du patrimoine, les 38e journées du patrimoine qui ont lieu donc depuis ce matin jusqu'à demain soir. Et c'est un endroit absolument magnifique à découvrir. C'est à Noisiel, c'est en Seine-et-Marne.
Et du chocolat, peut-être. C'est vrai qu'on a rarement joué avec ça dans le défi frigo. Peut-être proposé ce matin, mais j'en doute. Je rappelle que pour le défi frigo, vous nous donnez un ingrédient et Jean-Seb et Louise disposent d'une minute trente pour en faire une recette. N'oubliez pas, 3210 par téléphone ou par SMS en envoyant le mot régal, suivi de votre message au 64-900. A tout de suite sur RTL.
Tout de suite, retour de RTL vous régale. Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Bon début de week-end sur RTL en direct jusqu'à 11h30 tout à l'heure. C'est RTL vous régale. Nous sommes à Meaux et dans quelques minutes, nous accueillerons le producteur du dernier brie de Meaux fermier. On va en parler avec Didier Buet qui sera notre invité. Forcément, qu'est-ce qu'on rapporte de cette escale, de cette escapade à Meaux ? Louise, Jean-Sébastien, on rapporte du fromage pour commencer.
Bah forcément, on rapporte du brie quand on est à Meaux et en Seine-et-Marne. Le brie qui appartient à la famille des pâtes molles à croûte fleurie. Il y a celui de Meaux, il y a celui de Melun, il y a le brie de Nangis, il y a le brie de Montereau. Alors, ils ont chacun leur caractère, leurs caractéristiques propres. Celui de Meaux étant le plus grand au niveau de la palette des saveurs, c'est celui qui est peut-être le plus marqué. Le brie de Melun révèle, lui, des arômes un peu plus lactiques. Meaux, il est... c'est très gras en bouche quand c'est affiné. C'est une merveille quand c'est sur un pain toasté, un beau pain poilane, comme ça, vous le posez. Et alors, quand vous manger ça avec un verre de Condrieu, par exemple.
10h33, il a tenu jusqu'à 10h33.
Ça y est.
Ça y est, c'est parti, on l'a lâché.
J'ai pas de Condrieu, mais je vous ai rapporté un peu de pain quand même pour le.
Elle est belle celle-là.
Je vous assure qu'il a pas encore goûté le brie. Hein,
il a tenu.
Il s'est tardé à plonger dedans.
Voilà, on peut aussi rapporter de la bière de Meaux. C'est une bière qui est 100% malte. Alors elle a un petit côté doré. Elle est appréciée pour son amertume et son goût légèrement fruité. Donc là-bas à Meaux, il y a une brasserie qui fabrique donc cette bière et ils utilisent principalement des maltes d'orge auxquelles ils ajoutent selon les recettes des maltes de blé. Ça obtient, vous savez, cette belle mousse là, bien appétissante. Et d'ailleurs, vous pouvez la trouver en vente à la boutique de l'Office du tourisme de Meaux.
Jean-Seb, tu me couperais un morceau de baguette juste pour goûter la moutarde. C'est juste pour tremper dans la moutarde.
La moutarde de Meaux, bien sûr, condiment à base de grains de moutarde entier, de grains broyés à la meule, de vinaigre, d'eau, de sel, d'aromates. C'est une touche. Il y a une touche caractéristique dont les moines de Meaux avaient le secret puisqu'ils confectionnaient cette moutarde dès le Moyen-Âge. Ils ont révélé le secret à Pommery, qui a commercialisé la marque à partir de 1760, d'où son appellation commune de moutarde de Meaux Pommery, même si aujourd'hui elle a depuis changé de producteur.
Il y a un autre produit de tradition là-bas, même si c'est pas forcément celui qu'on connaît le mieux, c'est le confit de pétales de rose.
C'est une tradition de Seine-et-Marne dont l'origine remonte au XIe siècle. C'est à cette époque que on a une production notable de roses à Provins. Alors on est plus au sud hein, de la Seine-et-Marne. Un confit réalisé à partir de la macération de pétales de rose, présenté sous forme de gelée, mais qui inclut les pétales que l'on voit en transparence. Alors ça peut être utilisé au petit déjeuner ou au goûter, ça peut être aussi utilisé sur du foie gras ou sur des crêpes. Et puis quand vous mettez ça sur une faisselle de fromage frais, c'est pas mal non plus. On en trouve à 5,90€ le pot de ce confit de pétales de rose.
Je ne sais pas si on peut l'utiliser avec des carottes, mais figurez-vous qu'il y a aussi la carotte de Meaux, qui est une carotte de variété rouge, grosse racine, elle a un petit goût sucré. Alors, cette carotte rappelle que Meaux fut quand même autrefois un centre important de production maraîchère. Il existe encore d'ailleurs quelques variétés de légumes, telles que le cornichon fin de mot, la chicorée frisée de mot. Et puis il y a d'autres variétés qui ont complètement disparu, le navet de mot ou encore la fraise belle de mot. Pourtant j'aimerais bien qu'elle ressuscite parce que c'est tellement joli de dire et si on se faisait une petite belle de mot.
Alors vous, il y a aussi des pommes qui sont traditionnelles de la Seine-et-Marne, les pommes faro qu'on trouve de moins en moins aussi. Une pomme plutôt petite, un peu aplatie, d'un beau rouge qui est croquante, sucrée, parfumée, avec juste ce qu'il faut d'acidité. La faro qui représente le véritable emblème de la Brie seine-et-marnaise. On a sa trace dans des écrits du Moyen-Âge qui mentionnent ce fruit briard. Il faut aller vraiment la chercher. On en trouve assez difficilement, mais c'est vraiment une pomme qui a lieu. Sa venue à l'automne fait de ce fruit une véritable gourmandise. Moi, j'aime bien quand il y a des vieilles des vieux légumes comme ça, des vieilles souches de légumes, que ce soit le navet de mot. Ça permettrait de ressortir comme ça une diversité de fruits et de légumes qui est en train de disparaître. C'est dommage.
Les amis, on va être honnêtes. C'est vrai que quand on évoque Edmond de Rothschild, on pense tous à
la banque.
Ah ben oui, forcément, on pense tous à l'argent, au pouvoir des banques, etc. Vous allez constater qu'ici, mais vous allez voir que dans RTL vous régale dans un instant, on va parler de Rothschild, mais on va répondre Brie. On va filer au domaine des 30 arpents, on va accueillir Didier Buet, il est le directeur d'exploitation de ce domaine. On parle de fromage et du Brie, le roi du fromage, d'ici quelques instants sur RTL. En attendant, voici le Wonderful Life d'Imani. Here I go out to see again. The sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Calls in the sky, and in my blue eyes, you know it feels unfair. There is magic everywhere. Look at me stand. The hate is in your hair. They seem to hate you because you're there. And I need a friend. Oh, I need a friend to make me happy. Not stand there on my own. Look at me. I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. I'm not so alone. Look at me here, here on my own again. I'm straight in the sunshine. Vous aurez forcément reconnu le standard de Black Wonderful Life sur Voodoo Cello, le nouvel album d'Imani qui vient de sortir. Imani sur RTL.
Restez bien avec nous.
RTL vous régale revient toute suite. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mes amis?
Je vous le disais en ce début de week-end dans RTL vous régale, on est à Meaux et on va l'accueillir du coup un peu comme une star, puisqu'il est le producteur du dernier Brie de Meaux fermier. Bonjour Didier Buet.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL. Je précise que vous êtes le directeur d'exploitation du domaine des 30 Arpents. On parlait de la famille Rothschild il y a quelques instants. On sait que c'est une famille qui a toujours été passionnée par les plaisirs de la table, par le respect de la nature aussi. Et c'est vrai que il y a un lien évident, et vous allez nous l'expliquer d'ailleurs, entre le Brie, votre Brie, et l'histoire de la famille des Rothschild.
Oui, tout à fait. Je crois que c'est une vocation ancestrale de la famille Rothschild. C'est déjà dans les années 20, quand ils ont acheté le domaine, c'était la volonté de préserver un poumon vert à l'est de Paris. Et puis, c'est Edmond Rothschild qui a choisi dans les années 90, alors que tout le monde abandonnait l'élevage dans la région, qui est le cœur de la Brie. Bah lui, il a fait le pari inverse de réinvestir, de s'intéresser à l'élevage pour faire ce Brie de Meaux, et aujourd'hui le dernier Brie de Meaux fermier.
C'est ça, donc la démarche initiale, vous le disiez, hein, avant même de penser à fabriquer du Brie, faire du fromage, c'était de préserver un écosystème dans le coin.
Oui, tout à fait, parce que donc après la Première Guerre, c'était l'idée de garder ce poumon vert à l'est de Paris. On est complètement en bordure de la Brie boisée, et donc on a aujourd'hui sur le domaine 1000 hectares de bois et 600 hectares de culture, ce qui représente quand même un bel espace vert dans une zone qui commence à s'urbaniser de plus en plus.
Oui, c'est vrai. Didier, l'histoire commence en 1991. Edmond Rothschild se lance dans la fabrication du Brie de son enfance, de manière totalement artisanale. Et je crois que ça prend à peine 3 ans pour que vous soyez récompensé par une médaille d'argent et que vous obteniez le titre d'AOP. Je rappelle, appellation d'origine protégée. Moi, j'appelle ça une prouesse. Vous pouvez le dire. Si vous, vous ne pouvez pas le dire, moi, je peux le dire.
Bah écoutez, c'est gentil de votre part. C'est vrai que ce n'était pas une histoire gagnée d'avance, parce que quand l'histoire a commencé, les premiers échos, c'était de dire que c'était impossible de faire un Brie de Meaux fermier. Mm-hmm. Et donc, force est de constater qu'aujourd'hui, ça marche, et ça marche plutôt bien. On commence à être reconnu. Et même maintenant, on a du Brie de Meaux, le dernier Brie de Meaux fermier, et on fait même des très bons produits quand on y ajoute un petit peu de truffe ou des choses comme ça, quoi.
Ah ben, on va en parler dans quelques instants avec Louise, vous allez voir. On a décidé de vous appeler parce que c'était évident de vous appeler, mais on aime beaucoup votre démarche, et je vous sers pas la soupe en disant ça. Vous dites qu'il faut travailler dans le sens de la nature et pas contre elle. Faut expliquer, vous avez un modèle d'agriculture pérenne, votre objectif principal, c'est le respect de la nature et le respect des animaux. Faut expliquer que vos 300 vaches, elles ont une vie de star aussi, c'est une vie de palace. C'est-à-dire que vos vaches, elles vont seules à la traite quand elles veulent durant la journée.
Oui, c'est vrai. Alors, ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Il vaut toujours mieux travailler dans le sens de la nature que contre la nature. C'est beaucoup plus facile d'ailleurs. Et puis, nos vaches, vous savez, elles sont loin d'être bêtes. Donc, si on veut un lait de qualité, eh ben, il faut qu'elle soit bien. Parce que dès qu'il se passe quelque chose qui les dérange, ben, c'est le lait qui va en pâtir en premier.
Et oui. Comme pour nous.
Et, voilà, tout à fait. Et donc, nous, c'est vrai qu'on a aujourd'hui un système où on essaie de maîtriser la filière de la fourche à la fourchette, comme on aime dire. Et même, on boucle la boucle aujourd'hui, puisque, vous savez, on a les cultures qui nous permettent de nourrir nos vaches, les vaches qui vont nous donner ce bon lait pour faire le Brie de Meaux. Et aujourd'hui même, on récupère quelque chose qui pourrait être considéré comme des déchets, qui sont les déchets, le fumier, le lisier, ou même le sérum de la fromagerie, et on incorpore ça dans un méthaniseur, on produit de l'énergie verte.
C'est génial.
Et on récupère encore une fois de l'engrais naturel qu'on va remettre sur les champs pour refaire pousser la nourriture de l'année d'après.
C'est absolument fantastique. Ouais. Et ce Brie qui est le vôtre, il s'inscrit dans une tradition, celle de la famille Rothschild. Les gestes, il faut le préciser, n'ont pas changé. Tout est encore fait à la main. Alors, évidemment, ça signifie que c'est une production de qualité, mais en petite quantité, du coup.
Oui, voilà, tout à fait. Il faut dire que malgré tout, nous sommes une petite ferme, hein, même si nous sommes 40 à travailler sur la ferme, ce qui est déjà bien, mais en Brie de Meaux, on représente aujourd'hui moins de 2% de la production de Brie de Meaux en France, donc c'est très marginal, on va dire ça comme ça. Mais on est très fiers d'être le dernier Brie de Meaux fermier quand même, quoi.
Ouais. Ouais, bien sûr. C'est un vrai privilège, en tout cas. Mais vous faites tout ce qu'il faut pour, absolument. Didier Buet, c'était un plaisir, un honneur même de vous avoir dans RTL vous régale. Directeur d'exploitation du domaine des 30 Arpents. Continuez à nous régaler. On vous salue, on vous souhaite un très bon week-end et à bientôt.
Ben, je vous remercie, merci. À très bientôt.
Louise, ne vous éloignez surtout
je
pas.
Je prends le relais de Didier, moi.
Parce que dans un instant, la petite gourmandise du jour, forcément au pays du Brie, on vous explique tout, ne bougez pas, cette RTL vous régale comme tous les week-ends en direct.
Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Du bon lait de vache, qu'est-ce qu'on fait ?
Bienvenue les amis au pays du Brie. Quel privilège j'ai ce matin de pouvoir vous exprimer mon immense admiration pour ce Brie de Meaux, les garçons, que vous avez devant les yeux. Vous êtes aussi des privilégiés. Alors je rappelle,
pas devant les yeux, moi.
Ce qu'est le Brie de Meaux. C'est un fromage à base de lait de vache, à cru, à pâte molle et à croûte fleurie. Comme vous pouvez le voir, cette croûte, elle est fine et blonde avec un petit duvet. Il est de forme cylindrique, d'un poids moyen de 2,8 kg, pour un diamètre de 36 à 37 cm. Vous voyez, c'est bien précis. Les garçons, le décor est planté.
On goûte quand ?
Alors, je vous fais un petit rappel, s'il vous plaît.
On attend, Jean-Seb.
J'ai un chiffre à vous donner. Figurez-vous que nous sommes le deuxième pays consommateur de fromage. Écoutez bien ce chiffre, avec 26 kg de fromage par an et par habitant. C'est quand même hallucinant.
Ah, c'est énorme.
Et puis j'attends une question de votre part, vu qu'on est deuxième.
Bah qui sont les premiers ?
Ah pas mal, pas mal.
Ah bah tiens.
Et bah c'est la Grèce.
Mais non.
C'est fou, bah oui, la feta, forcément. Bah ouais. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous côtoyé un jour dans notre vie, de près ou de loin, ce fameux Brie de Meaux. Vous avez vu comme je suis, voilà. Allez, on repart un peu dans l'histoire, forcément. Il serait originaire de l'abbaye Notre-Dame de Jouarre. Alors c'est en 1793, François-Joachim Esnu-Lavallée dit de ce Brie. Le Brie, aimé par les riches et les pauvres, prêchait l'égalité avant qu'on ne l'ait jamais imaginé possible. Pour commencer, quelques années plus tard, ce fromage aurait été sacré roi des fromages par Talleyrand lors du congrès de Vienne. Alors, Talleyrand, lui, a prétendu qu'aucun fromage ne valait le Brie, sauf que là, il y avait Metternich qui n'était pas content de ne pas voir son fromage qui était le bleu de Bavière sur la table. Donc, ils ont décidé d'organiser un petit banquet final avec pas moins de 52 fromages régionaux. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien, à la fin de cette dégustation, c'est le prince Metternich lui-même qui proclama le Brie, attention, prince des fromages et premier des desserts.
Quel bel hommage.
Hey, vous n'êtes pas fier de l'avoir
devant
vos
yeux. Bon, on peut goûter quand ?
Bon, alors maintenant, allez, maintenant qu'on en sait un peu plus, lancez-vous.
Bon. Allez, j'y vais.
Lancez-vous.
Mais Jean-Seb, ça fait 10 minutes qu'il a le nez dedans. Bon,
alors, c'est le Brie de Meaux de la ferme des 30 arpents. On a eu Didier au téléphone juste avant. Alors, goûtez-le, parce que c'est pas un Brie comme les autres.
Oh là là, c'est formidable, ça.
C'est un Brie d'exception. Alors, c'est un Brie de Meaux fermier AOP Edmond Rothschild Héritage. Oh. Donc, comme vous l'avez entendu, c'est une fabrication qui est maîtrisée de A à Z. Tout est fait dans le respect, dans l'excellence. C'est le seul.
Repasse-moi du pain, là.
Oh là là. Ah, j'étais sûre que ça allait vous plaire, ça. J'étais sûre. C'est le seul à bénéficier donc de la distinction fermier, c'est-à-dire que ce Brie, il est uniquement fabriqué à partir du lait de leurs 300 vaches. Il n'y a pas d'assemblage de lait. C'est ce qui fera sûrement et qui fait sûrement la différence avec les autres. Alors celui que vous avez là, il est affiné entre 6 et 8 semaines.
On le sent bien qu'il est affiné quand même.
Oh là là.
Je ne sais pas qui va nous suivre dans ce studio tout à l'heure.
Ce qui veut dire. Oh mais vous n'êtes jamais content. Ce qui veut dire aussi.
Et surtout, c'est Julien Courbet lundi. Désolé Julien.
On salue Julien.
Mais non, mais ce qui veut dire, c'est que.
Ça peut vous arriver.
Bah, j'aimerais bien que ça nous arrive tous les jours, ce qu'on est en train de faire.
Tiens, tu m'étonnes.
Bon, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah, c'est délicieux. C'est fin délicieux, comme dit Jean-Seb.
C'est vrai ?
Il y en a un deuxième qui arrive.
Non, bah attendez,
Comme une deuxième couche.
Ils sont intenables. Alors, vous qui nous écoutez, j'imagine que ça vous donne aussi envie. Alors, je vous rassure, vous pouvez acheter ce Brie sur le site internet épicerie.edmondrothschildheritage.com. Ce Brie vous sera livré dans une jolie boîte en bois, ce qui vous permettra, si vous n'êtes pas trop gourmand, de le garder plus longtemps au frais. Donc, surtout, gardez bien cette petite boîte en bois.
Non mais c'est tellement joli, on peut l'offrir en cadeau, je trouve.
Ah bah ça, moi je peux vous dire que je tombe par terre si on fait
Jean-Michel,
ça.
Jean-Michel,
Ouais, j'en sais.
Vous avez vu ces petits trucs, ces petits
mais
grains.
Non, mais oh. Bon, je voilà. Pas, eh ben, moi, c'était ma surprise. Donc il n'y a plus de suspense.
Allez-y, Louise.
Ben non, parce que je vous ai trouvé particulièrement sage depuis le début de l'émission, donc je voulais vous récompenser. Oh. Et pour ça, je vous ai apporté délicieux brie à la truffe, toujours de la ferme
je
de Trente-Arcan.
Oh,
c'est un fromage qui est affiné, coupé en deux. Qui est coupé en deux, on met dedans de la crème de Bria, ajouter des fines brisures de truffe noire du Périgord. Je pense que je peux aller me coucher, je suis heureuse.
Cette émission, elle sert à ça. C'est-à-dire que si dans quelques instants, vous n'avez pas envie, même tout de suite, de vous prendre un petit morceau de pain, vous voyez, une petite couche de brie, pour autant que vous ayez dans le frigo, franchement, faites-vous plaisir.
Moi, je l'ai mangé au petit déjeuner, pour vous dire.
Avec le café ?
Bah évidemment.
Ouais, ça marche, hein. Je sais que ça marche.
Ça marche tout le temps.
Allez, on se retrouve dans quelques instants. Vous êtes prêts pour le défi frigo, les amis ?
Toujours.
C'est RTL vous régale, comme tous les samedis. C'est sur RTL, à tout de suite.
Tout de suite, retour de RTL vous régale.
10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Je vous en parlais il y a un instant, juste avant l'info d'11h, évidemment, c'est le rendez-vous du défi frigo d'RTL Royal. Bonjour Solange.
Oui, bonjour toute l'équipe RTL.
Bonjour Solange.
Bonjour.
Est-ce que vous avez craqué, Solange? Est-ce qu'il y a 30...
Voilà.
Eh ben, soyez honnête, avouez-le.
Vous avez mis l'eau à la bouche. Hein.
Est-ce que vous avez...
Nous, dans l'Est, on a le Munster.
Ah oui. Ah,
c'est vrai que vous avez le Munster. Mais est-ce que vous avez du brie dans le frigo?
Ah, pas aujourd'hui, non. J'ai un bon Munster Ternier que j'ai ramené de balade, là, il n'y a pas longtemps.
Oh, ouais, c'est bien, ça. Oui. Bon, vous êtes à Agondange, en Moselle.
Oui, tout à fait.
Alors, vous, votre truc, c'est la quiche Lorraine?
Oui, le cliché. Voilà.
Jean-Michel Cliché, bonjour.
Oui. Non, c'est pas Jean-Michel Cliché, soyez honnête. Solange, je sais que votre spécialité, c'est une quiche Lorraine un peu particulière.
Oui, la mienne, elle est revisitée. Moi, je la fais avec des poires et de la fourme d'Ambert.
Oh, c'est bien, ça aussi.
La fourme d'Ambert.
Ah, c'est plus... la délice.
Ça me rappelle un truc... On s'est bien foutu de moi. Ça.
La quiche au melon.
La quiche au melon, Non, mais poire et forme d'Ambert, c'est intéressant, mais bon, c'est plus une quiche Lorraine, c'est une quiche Solange.
On va vous proposer
deux recettes originales, mais sur base de quel ingrédient finalement? Parce que c'est pas du fromage avec lequel vous arrivez.
Non, pas du tout.
Dites-nous.
Alors, hier matin, j'ai été chez mon amie Anne-Marie, qui habite près de chez moi, et j'ai cueilli des mûres.
Des mûres sauvages? D'accord.
Des mûres sauvages, tout à fait.
Deux recettes à base de mûres sauvages. Dans un instant, c'est l'enjeu du défi frigo entre Jean-Seb et Louise Quiche à la mûre. Bon, ben on est mûre. Vous écoutez RTL.
Merci beaucoup Dominique Cordier. RTL, il est 11h et presque 4 minutes. La suite de RTL vous régale avec dans un instant le défi frigo et les mûres de Solange, Jean-Michel.
Absolument. Je vois que vous avez suivi. Merci Sébastien et prochaines infos tout à l'heure à midi. Merci beaucoup.
RTL vous régale.
Oh Jade, je suis là.
Oui, quoi?
Je sais bien que vous avez vu André Dusselier dans les coulisses, là. Mais...
Ah ouais, je suis tellement contente.
Ouais, vous n'êtes pas la seule à être contente. On est ravis de recevoir André Dusselier à 11h30 pour parler télé. Soyez là, je vais donner un petit calmant à Jade, c'est ça, parce qu'elle ne va pas tenir l'émission.
Dis donc.
À tout de suite.
10h15, 11h30.
RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Solange, au cœur de l'IFI Frigo d'RTL vous régale, du côté d'Agondange. Solange qui arrive avec les mûres sauvages de sa copine, qu'elles ont ramassées, qu'elles ont cueillies elles-mêmes. C'est un produit de qualité, c'est délicat. On attend donc de la part de Jean-Seb et de Louise de recette finaude et originale. On démarre avec Louise, bonne chance. 1 minute 30, top chrono.
Alors Solange, visiblement vous aimez bien le sucré salé parce que vous m'avez parlé de votre quiche poire forme d'Ambert. Alors, je vous propose pour le déjeuner avec votre ami. Vous allez faire un émincé de magret de canard au mûr. Donc, c'est-à-dire que vous allez enlever la peau de vos magrets de canard. À côté, vous allez mélanger un peu de gingembre et de vinaigre balsamique. Vous allez laquer, badigeonner vos magrets avec cette marinade. À côté de ça, vous allez écraser quelques mûres. Mélangez le tout avec un petit peu de miel. Vous allez faire réchauffer le tout. Ensuite, vous allez faire cuire, revenir vos magrets de canard, que vous allez trancher en fines pour faire des émincés, parce que c'est toujours plus élégant. Et vous allez napper vos magrets avec ces petits coulis de mûres. et rajouter des mûres fraîches dessus pour avoir un petit peu le mélange de texture. Et ma Solange, vous allez m'en dire des nouvelles.
C'est rapide. Elle a mis, à, je crois, moins d'une minute pour vous donner
la recette. C'est rapide et efficace, c'est ce qu'on aime.
Ah bah, enfin, c'est propre. Hein. Magret de canard au mûr. Solange, voilà pour la recette de Louise. En face, alors ça ne bronche pas en face.
Oui, oui, je suis avec vous, j'écoute, du coup, tu...
Non, mais je parlais de Jean-Sébastien qui écoutait religieusement et qui, voilà. à mon avis, va vous sortir un truc de derrière les fagots, expression de 1983. On y va, Jean-Séb, 1 minute 30.
Alors, on va faire un dessert. On va faire une jolie tarte à la crème d'amande avec des mûres et des noix de pécan. Et voilà, vous allez prendre un fond de pâte sablée que vous allez piqueter et vous allez mettre une belle crème d'amande dessus. La crème d'amande, vous la faites avec du beurre un peu fondu, un peu de sucre, de la poudre d'amande, un œuf que vous allez généreusement étaler sur votre fond de tarte. Vous allez rajouter comme ça quelques mûres et vous allez mettre ça au four pendant une dizaine de minutes à 180 degrés. Il va falloir faire pendant ce temps une chantilly. Là, il n'y a rien de plus simple. 150 g de crème liquide, 150 g de crème épaisse, 20 g de sucre glace, 2 pincées de poudre de vanille ou alors les graines d'une demi-gousse de vanille. Vous mélangez au batteur. L'important, c'est que les ingrédients soient froids. Et à partir de là, vous avez cette chantilly. Et puis, comme vous avez le temps, vous allez caraméliser des noix de pécan, une poêle du sucre, vous faites un caramel très léger, vous mettez vos noix de pécan dedans, vous laissez refroidir. Et là, vous sortez la tarte, vous étalez votre chantilly et vous allez décorer avec toutes vos mûres. Vous allez poser vos mûres comme ça sur la chantilly en rondelles et vous allez mettre quelques noix de pécan juste pour décorer. Et vous allez avoir cette fabuleuse tarte avec... votre crème d'amande, la chantilly qui est légère, fraîche.
Comment ils le vendent ?
Les mûres qui vont donner de l'acidité, de l'acidulé. Et comme il me reste 3 secondes...
Non, il vous reste rien du tout, justement.
Pas du tout, parce que j'ai mon chronomètre personnel, monsieur.
Top chrono !
Régalez-vous.
Tout ça pour ça. À ma gauche, ma chère Solange, un magret de canard au mûr. Signé Louise Petit-Renaud. À ma droite, une tarte amande mûre noix de pécan. L'objet de toutes les convoitises... de Jean-Sébastien Petit-Demange. Et au milieu, il y a vous, Solange. J'attendais. Et au milieu, il y a vous, c'est ça. Ne vous retournez pas, Solange. Il va falloir choisir. Et je sais que le choix va être compliqué de nouveau ce matin.
Oui, c'est très compliqué, là, parce que tous les deux, c'est très super sympa.
Bah, c'est-à-dire qu'on a un plat et un dessert.
Ah, bah voilà, c'est ça. Oui.
Ne fût-ce que sur ça.
On ne peut pas prendre les deux.
On ne peut pas.
Vous pouvez toujours, de toute manière.
Oui. Eh non, depuis Jacques Martin, on est passé à autre chose.
Ah là 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 là.
Donc. Est-ce que vous allez gagner, Solange ?
Un choix, Solange. Faut y aller.
Alors, je vais choisir le magret de canard au mur.
Elle a gagné. En moins d'une minute, Louise Petit-Renaud s'impose dans le défi frigo de ce samedi 18 septembre. Magret de canard au mur. Parce que vous êtes moins dessert que salé, c'est peut-être ça ?
Oh non, je suis très dessert, mais bon, c'est au hasard, en fait, c'est pile ou face.
Voilà, pile ou face,
tout à fait.
Et puis surtout, c'est une question
de qualité.
Vous prenez un petit bout de Munster après le plat, hein. Ça marche.
Bah oui, bien sûr. Solange, vous avez bien fait de nous appeler. Solange. Vous avez bien fait de nous appeler au 3210 parce que vous allez partir en croisière, Solange.
Ouh là là.
Alors écoutez-moi bien, vous partez en croisière avec CroisiEurope.
Super.
Compagnie française.
Oui, tout à fait, oui.
Qui navigue depuis 45 ans au plus proche des beautés du monde à bord de bateaux à taille humaine. Et figurez-vous qu'en novembre, CroisiEurope sera en fête. Ils fêtent leurs 45 ans avec les croisières Festival d'automne sur les fleuves de France. Et à cette occasion, vous allez embarquer pour des itinéraires de 4 ou 5 jours. Vous avez le choix, Solange, entre la Loire et ses châteaux, la Seine de Paris en fleurs, le Rhône jusqu'aux portes de la Camargue ou encore la Gironde et ses vignobles. Tout est compris à bord. Des repas gastronomiques, les soirées, les excursions, les visites proposées au programme. Allez jeter un coup d'œil sur croisiEurope.com. Et tout ça, Solange, avec quelques mûres.
Je prendrai mon pot de confiture avec.
Absolument, passez un bon séjour à bord. Belle croisière à vous avec la personne de votre choix. Voilà. On vous embrasse fort et on salue la Moselle.
Voilà, merci.
Gros bisous, Solange. Le défi frigo d'RTL vous régale tous les samedis à 11h.
Il paraît que la terre est plate. que les rêves n'existent pas, que les pingouins s'acclimatent fort bien au nouveau climat. Ils te disent que c'est ta faute si tout s'était temps pour toi, mais y a bien des étoiles mortes que je vois briller là-bas.
Allez, venez vous accouder aux étoiles dans RTL vous régale comme tous les samedis matins pour accueillir dans un instant une étoile de la mer. Elle est navigatrice aux multiples exploits. C'est une des premières femmes en solitaire à la rame et à la voile. Mère de famille, femme engagée pour la sauvegarde de l'environnement et des océans, notre ambassadrice du jour s'appelle Maude Fontenoy. Et si vous vous demandez quel est le lien entre Maude Fontenoy et le Brie, je vous explique tout dans un instant. Bougez pas, à tout de suite.
Tout de suite, retour de RTL vous régale. Comme. Jusqu'à 11h30,
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
Ram, 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 ramé.
Ah bah forcément oui, si on avait choisi Full Sentimental, ça aurait marché beaucoup moins bien, comme disait l'autre. Bonjour Maude Fontenoy.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL. Je disais, hein, c'est vous l'ambassadrice de Maud aujourd'hui. Et on peut se demander, si on ne connaît pas bien votre histoire, on peut se demander ce qu'il y a comme lien entre Maud de Fontenoy et le Brie. On va vous expliquer, parce que c'est plus du sang mais du sel qui coule dans vos veines. Vous l'imaginez peut-être originaire de Saint-Malo, Concarneau, Quimper, des villes de grands navigateurs. Pourtant, c'est bien à Meaux que tout a commencé pour vous, Maud. Même s'il y a quelques jours près, votre naissance se serait passée en pleine mer, c'est ça? Parce que vos parents étaient aussi des passionnés de bateaux.
C'est vrai. Je suis en fait née à Meaux, dans cette belle ville de Meaux, et j'ai habité à un moment donné de ma vie très peu à ma naissance, parce qu'on est reparti en mer quand j'avais à peine 7 jours pour traverser l'Atlantique avec le bateau familial, un bateau à deux mâts, une goélette, et on est parti vivre sur les océans après les 15 premières années de ma vie. Et ensuite, après, j'ai à un moment donné revécu un petit peu à Meaux, et j'ai toujours de la famille à Meaux et la maison de mon grand-père qui a été vendue depuis... c'est toujours un grand souvenir pour moi que de venir me balader dans les rues de Meaux, de voir la cathédrale, et je suis membre de la confrérie du Brie de Meaux.
Ah, mais félicitations.
Oh, la classe, oui. La classe.
Ah bah attendez. Alors votre premier exploit, on s'en souvient évidemment en 2003, traversée de l'Atlantique Nord à la rame, et là aussi pour la rame tout commence à Meaux.
Ah, c'est vrai que j'ai retrouvé ces images de mon tout petit bateau à rame qui, la première fois, a été mis dans l'eau sur la Marne, et de voir mes premiers essais en Marne sous l'œil de Jean-François Copé, le maire, déjà à l'époque, qui me regardait un peu en me disant « Mais où est-ce qu'elle va aller, celle-là ?» Et on est devenus très amis, il m'a beaucoup soutenue dans mes aventures, et je crois que dans son bureau, monsieur le maire a toujours ce drapeau de la ville de Meaux que j'avais emmené traverser cet océan Atlantique Nord et qui était revenu un petit peu abîmé à cause des tempêtes, des chavirages, des retournements du navire. On l'a fait encadrer et là, je crois toujours dans son bureau.
Et ça fait sa fierté. Maud Fontenoy, vous savez que dans cette émission, dans RTL Vous Régale, on rencontre pas mal de producteurs, on accueille des maraîchers, des artisans, etc. On a un rapport à la terre très fort, vous aussi. Hein, parce que vous dites, aimer et défendre la mer, c'est aussi prendre avant tout soin de la terre.
Oui, c'est vrai que c'est le grand combat de ma vie parce que j'ai appris à connaître les océans à travers mes traversées à la rame, à la voile, mon tour du monde à contre-courant, ma vie en mer. Comme vous le disiez, j'ai passé plus de temps de ma vie sur les bateaux, sur la mer que sur terre. Mais ensuite, après, dans le cadre du travail avec les scientifiques au sein de ma fondation, qui travaille sur l'éducation à l'environnement dans toutes les écoles de France, eh bien, c'est surtout de comprendre qu'on est tous, quel que soit l'endroit où on habite, à Meaux, à Strasbourg et ailleurs, où vous baladez avec votre équipe, on est tous liés avec la mer. Déjà parce qu'on est nés tous dans la profondeur des océans, et c'est en ça que c'est vraiment fascinant de se dire qu'il y a 4 milliards d'années, la vie est née dans la profondeur des océans, la micro-première particule de vie naît dans le fond des océans au niveau des sources d'eau chaude, et ensuite que la vie elle a évolué à l'image du dauphin, qui est cet animal qu'on aime tant marin, et qui a été à un moment donné un animal terrestre, et on le voit dans ses nageoires, on a des traces de phalanges, et il a ensuite rejoint la mer. À l'image de nous, chacun d'entre nous aujourd'hui, on retourne à la mer pour y assurer notre survie en termes d'oxygène, puisque les océans nous donnent plus de la moitié de l'oxygène que l'on respire, près de 22 000 médicaments qui viennent de la mer, les énergies marines, la régulation du climat, la marmite de l'humanité. Tout ça, c'est la mer qui nous l'apporte, c'est les trois quarts du globe. Et souvent, on a tendance un peu à l'oublier, à penser qu'à Meaux, on est loin de la mer et en fait, on ne l'est pas du tout.
C'est important de le rappeler, ça vous faites bien, parce que dans ce livre, La mer au secours de la terre, vous parlez hein, d'une mer qui peut carrément apporter des solutions. Alors, elles peuvent être économiques, elles peuvent être médicales, pour les années futures. Y a quelques exemples qu'on peut citer. Hein.
Oui, non, mais c'est vrai que quand tu t'intéresses à la mer, t'es vraiment fasciné. Parce que, par exemple, prenons l'exemple du requin. Pourquoi le requin? Parce que j'étais sur un salon du livre tout à l'heure et je parlais avec les élèves, les requins, ça les fascine toujours. Le requin, c'est à la fois d'un côté 120 millions de requins qui sont tués chaque année uniquement pour leurs ailerons, donc vous imaginez le massacre que ça représente. Et de l'autre côté, le requin qui est aujourd'hui étudié et on s'en est inspiré pour fabriquer un revêtement pour l'intérieur de nos hôpitaux. Pourquoi ? Parce que la peau du requin elle a une forme très particulière avec une forme alvéolaire avec des dendicules qui empêchent l'adhérence des bactéries. Et donc, on a inventé un revêtement en s'inspirant du requin pour recouvrir l'intérieur de nos salles opératoires, pour empêcher l'adhérence des bactéries et donc la prolifération des maladies nosocomiales qui créent quand même près de 4000 décès en France, plus de 40 000 aux États-Unis. Donc, vous voyez, c'est comment est-ce que tu t'inspires de la mer ? Mais c'est pareil sur des médicaments.
Sur les aliments, on pourrait parler des aliments, des bétons du futur, etc. qui,
incroyable.
Qui sont réfléchis sur base de l'écosystème marin, c'est vrai.
À chaque fois, voilà. C'est comment s'inspirer. C'est comme si vous étiez, quand vous étiez face à la mer, et même plus loin, vous regardiez la mer comme une immense bibliothèque. Et cette bibliothèque, finalement, c'est comme si les livres, vous ne saviez pas les lire. Si vous prenez un bouquin, vous le brûlez, vous savez que ça fait un peu d'énergie. Mais moi, dans mes bouquins, j'essaye plutôt d'expliquer le fait que ça peut vous apporter bien plus.
Par Mais exemple, bien sûr.
Ce petit ver arénicole qui s'appelle comme ça, parce qu'en fait, il a une hémoglobine qui est 40 fois plus oxygénante que l'hémoglobine humaine. C'est un petit ver de sable de rien du tout que vous allez trouver sur nos côtes bretonnes. Et lui, on va pouvoir fabriquer une hémoglobine qui est plus oxygénante que l'hémoglobine humaine, qui va être lyophilisable, donc on va pouvoir réhydrater sur des lieux de guerre. Elle va pouvoir être transmissible à l'ensemble des groupes sanguins. Tout ça, c'est à notre disposition.
Et c'est qu'un petit exemple parmi des centaines. On pourra en parler pendant des heures avec vous. Et pour ça, je précise que votre livre avec Yann Arthus-Bertrand, Bleu, Un océan de solutions, et votre livre La mer au secours de la terre, sont absolument à acheter, vraiment, achetez ça. Lisez ça avec vos enfants, en famille, en profit de la Fondation, pour comprendre hein, l'importance de la mer pour nous tous. Et puis j'ajoute que le 10 novembre va sortir Maud et les aventuriers des océans. C'est une bande dessinée absolument passionnante, comme vous pouvez l'être d'ailleurs. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci Maud, on vous embrasse.
Merci, bon courage à vous. Au revoir.
Très bon week-end, à bientôt. Au revoir. Le petit pas plus loin de Jean-Sébastien dans un instant pour terminer. RTL vous régale.
RTL vous régale revient tout de suite. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Et pour terminer, RTL vous régale ce matin, le petit pas plus loin de Jean-Seb. Jean-Seb, deux mots, on file en Gascogne et dans moins de deux minutes, on aura compris pourquoi.
Au pays de l'Armagnac et du vin de Madiran, le département du Gers. Là-bas, la nature est généreuse, gourmande. Là-bas, le bonheur est dans le pré depuis de longues années. Et en petite capitale, il y a Condon. Petite ville d'un peu moins de 7000 habitants que l'histoire n'a fait qu'effleurer. Il faut découvrir une cathédrale Saint-Pierre du début du XVIe siècle, exemple magnifique de l'architecture gothique finissante avec un côté forteresse à l'extérieur grâce à ses énormes contreforts. Et puis à l'intérieur, c'est un festival de merveilles. En point d'orgue, un hôtel en bois sculpté du XVIIIe totalement unique. Et devant la cathédrale, on se retrouve face à quatre mousquetaires, quatre statues en bronze de 5 tonnes et de 2,30 m de haut. Car ils sont impressionnants à Condon, Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan. Mais Condon connut une autre gloire. Un évêque nommé en 1669, qui portait le nom de Jacques Bénigne Bossuet. Oui, oui, le même qu'à Meaux. Mais ce qui différencie Condon de Meaux, c'est que Bossuet ne mit jamais les pieds en Gascogne, trop occupé qu'il fût à l'époque à écrire ses oraisons funèbres. Et en étant précepteur du dauphin, il a dû bénéficier du rapprochement géographique pour raisons professionnelles et devoir rester à Versailles.
Je vous l'avais dit, il y avait forcément un lien. Nous étions à Meaux. Louise, merci pour l'Ubri.
Merci à vous.
Dont Jean-Seb, je précise, n'a pas fait de quartier. Hein, puisque... et selon l'expression consacrée. Bah, et ce qui est déjà une performance
et
olympique pour lui.
Je pensais en rapporter pour mon sandwich de ce midi.
Rappé. La semaine prochaine, RTL vous régale, on est dans le pays d'Auge.
Merci. Autre pays de fromage.
Carrément, on vous en parlera. Rendez-vous samedi prochain. On vous souhaite un délicieux week-end. Tout de suite, on va retrouver, on refait la télé. Jade et Eric Dussard passent un très bon moment avec vous et avec André Dussolier. À la semaine prochaine.